Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Et tu fais quoi dans la vie ?» Aujourd'hui, nous recevons Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci de nous accompagner pour cette nouvelle émission, durant laquelle on parlera du coup de ton métier. Avant de parler de ta profession, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît.
Oui, alors bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 37 ans, je suis mariée, je suis maman de deux petites filles, Brune et Martha. Je suis brune, avec un carré, une frange et des petits yeux noirs. Je suis également... fille de deux personnes qui font le même métier que moi. Je fais le même métier que mes parents.
Super, bah merci pour cette charmante présentation. Et du coup, Pauline, puis-je te demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je suis infirmière. Plus précisément, infirmière libérale, donc à domicile.
Ok, et donc, bon, le métier d'infirmier en soi est plutôt bien connu du grand public, mais peux-tu nous dire en quoi consiste ton métier ?
Alors, mon métier, c'est le métier d'infirmier. En fait, c'est quelqu'un qui dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir le maintien et à restaurer la santé. Il contribue également à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes dans leur parcours de soins. Voilà, pour bien résumer la globalité de notre métier.
Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton parcours pour devenir infirmière ?
Alors moi, j'ai un parcours plutôt atypique parce qu'il faut savoir qu'à la base, infirmière n'était pas mon choix premier. Depuis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, je rêvais d'être sage-femme. Donc j'avais tout d'abord entrepris un parcours pour être sage-femme. Donc j'ai fait une première année de médecine, mais que j'ai arrêtée en cours d'année en me rendant compte que c'était irréalisable. Donc j'ai interrompu mon année. Après, je suis partie travailler... en EHPAD en tant que agent du service hospitalier spécialisé. En gros, je faisais le même métier que les aides-soignantes sans avoir le diplôme dans l'hôpital où travaillait ma maman. J'avais déjà travaillé plusieurs étés, mais sans être au contact direct des soins. Je travaillais plus dans la restauration, voilà, dans les cuisines. Et j'ai découvert le premier rapport aux patients à ce moment-là, donc avec les personnes âgées. La question donc c'est peut-être posée à ce moment-là, mais j'avais toujours cette idée de vouloir être sage-femme. Donc j'ai entrepris un parcours de partir en Belgique parce qu'en France, à part la première année de médecine qu'il fallait réussir et être dans à peu près les 200 premiers, en tout cas sur les facs de Lyon, il n'y avait pas d'autre solution. Donc j'ai visé la Belgique. Donc j'ai commencé à créer un dossier pour partir sur Bruxelles en vue de faire sage-femme. Le problème, c'est qu'il y avait un tirage au sort. Donc j'ai fait les tirages au sort que je n'ai pas eu, mais il y a un tronc commun entre infirmier et sage-femme là-bas de 2 ans. Et du coup, chaque année, je retentais le tirage au sort en espérant pouvoir prendre le chemin de sage-femme. Et malheureusement, je n'ai jamais eu les tirages au sort. Donc je me suis arrêtée à un cursus infirmier et j'ai vraiment découvert le métier en faisant plein de stages, etc. Et je me suis dit que c'est un métier qui me plaisait et j'ai continué dans cette voie-là.
D'accord. Donc même si on sent que ce n'était pas ton choix premier, on sent surtout que tu as beaucoup d'affection pour ton métier aujourd'hui,
oui.
Qui est peut-être même une vocation aujourd'hui.
Peut-être.
Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier d'infirmière ?
Alors, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est le contact humain, le fait de se sentir utile. C'est un métier où les journées, on ne les voit pas passer. Il y a énormément de diversité dans les différentes possibilités pour travailler. Je dirais également les responsabilités. Le côté médical aussi qui me plaît bien. Le diagnostic. On est quand même assez, surtout moi à domicile, assez libre de faire un peu ce que je veux. Je n'ai pas de hiérarchie directe. Donc on a vraiment un rôle central dans les soins de ville et en dehors de l'hôpital, quoi.
C'est vrai que tu nous as déjà un peu parlé du libéral, mais vous avez la chance du coup d'avoir différents terrains de jeu hein, sur ce métier-là. Tu peux nous en dire plus sur la diversité des lieux d'exercice ? Moi, je connais donc l'hospitalier, le libéral. Il y a peut-être les institutions publiques ou même les entreprises privées.
Oui, Alors, en tant qu'infirmier, on peut bien sûr travailler dans différents services hospitaliers qui sont tellement variés, entre une infirmière qui travaille en réanimation, ou en psychiatrie, ou en pneumologie, ou en chirurgie, ou en médecine. Il faut savoir qu'on ne fait pas du tout les mêmes métiers, même au bloc opératoire ou avec un public comme les enfants. C'est vraiment des métiers qui peuvent paraître différents parce que ce n'est pas le même public, ce n'est pas les mêmes soins. Entre un service de réa ou un service de psychiatrie, ce n'est pas du tout les mêmes soins qui sont faits. Il y a également le libéral. Donc moi, ce que j'ai fait et au fond, ce que j'avais toujours voulu faire, c'est que mon papa, du coup, était infirmier libéral et ma maman, infirmière en hospitalier. Il y a également tout ce qui est scolaire. Dans les entreprises. Et en fait, des infirmières, on en trouve un peu de partout. Hein. C'est un métier qui est quand même assez fondamental et nécessaire.
Et pourquoi aujourd'hui, toi, avoir fait le choix du libéral ?
Alors, moi, je pense que c'est plus une question de caractère. C'est que je n'ai jamais aimé les contraintes et la hiérarchie. J'aime bien être autonome dans mon travail. Je ne dirais pas que je n'aime pas le travail d'équipe, mais je suis quelqu'un de plutôt solitaire dans mon travail. J'ai quand même des collègues, je travaille avec 3 autres femmes, donc on est quand même une équipe de 4 personnes. Mais moi, c'est plus oui, le côté hiérarchie que je n'ai jamais vraiment apprécié. C'est très, très hiérarchisé, l'hôpital.
Et il me semble que pour passer en libéral, il y a quand même des règles à respecter, non ?
Oui. Alors peut-être que ça a changé. Il me semble qu'en discutant avec des étudiants que j'encadre, ça a pas mal changé ces dernières années. Il faut avoir un certain nombre d'heures en hospitalier dans des services techniques. Par exemple, je sais que tout ce qui est infirmière, il y a de crèche. D'ailleurs, on peut également être infirmière en crèche. Par exemple, c'est des heures de pratique qui ne comptent pas dans les heures pour pouvoir exercer en libéral. Voilà, dans des services techniques. Moi, je sais qu'avant le libéral, j'avais travaillé dans des services d'urgence, dans des services de pédiatrie, de chirurgie et de gériatrie. Donc, tout ce compte d'heures m'a permis après de pouvoir avoir l'autorisation de travailler en libéral par l'ordre l'ARS et par l'ordre national des infirmiers.
Et selon toi, aujourd'hui, quelles sont les compétences clés pour exercer cette profession et pour être un bon infirmier ?
Alors, il y a des qualités qui sont essentielles et des compétences essentielles. Pour moi, c'est la rigueur, l'organisation. Si on n'est pas organisé, c'est pas possible. Si on n'est pas rigoureux, c'est pas possible. Il faut aimer le contact humain. Il faut être très observateur, empathique. Ça, c'est primordial. Il faut être très souriant aussi. Et comme je dis souvent aussi aux étudiants, il faut être caméléon. C'est-à-dire qu'on passe d'une personne à l'autre, surtout moi en libéral, sur une matinée où je vois entre 15 et 20 personnes. Je passe d'une spécialité à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc il faut toujours savoir s'adapter pour que ça se passe au mieux. Donc c'est vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de soi.
Il est vrai que le métier d'infirmier aujourd'hui est souvent au cœur de l'actualité. On sent une envie de renforcer justement l'attractivité de vos métiers qui parfois manquent peut-être d'une certaine reconnaissance sociétale. On sent une envie en tout cas de revoir la copie. On entend souvent parler dans l'actualité de refonte, de réforme de vos métiers, dans l'idée d'accorder justement plus de poids à vos actions. Est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui ton regard sur ta profession et selon toi, quelles sont les évolutions que tu vois venir et avancer ?
Oui, alors déjà, on a pu voir l'avant et l'après-Covid, où enfin le métier d'infirmier s'est révélé essentiel, parce qu'on l'a vu pendant la crise. Sans infirmier, rien ne tournait. Je sais, moi, j'ai des connaissances qui travaillent dans des services de réanimation, des infirmiers qui apprenaient à des médecins de ville ou des médecins spécialisés à faire des soins typiques de la réanimation qu'ils ne savaient plus faire ou pas faire. Donc on a vraiment été essentiel. Moi, je sais qu'en tant qu'infirmière libérale, j'ai donné beaucoup de mon temps pour aller vacciner dans les centres de campagne, vacciner la population âgée et on va dire rurale en centre de vaccination. Donc le métier a été vachement revalorisé. Je sais que par exemple en milieu hospitalier, il y a eu des primes salariales où le métier a vraiment été revalorisé financièrement. Nous, je vois dans ma profession libérale, que ça fait très longtemps que j'ai quitté l'hôpital, on nous lâche de plus en plus de responsabilités, comme là récemment le droit de réaliser les actes de décès, les certificats de décès. Ça, c'est quelque chose qu'on demandait depuis un moment, parce que c'est très fréquent, moi, d'arriver le matin, de trouver une personne décédée à 6 heures du matin, donc de constater, de par ma profession, de par mon savoir, que la personne est décédée. La personne est à la maison. Le temps d'appeler un médecin, les médecins maintenant de ville, ils ne se déplacent plus vraiment à domicile. Donc, c'est faire appel à un SOS médecin qui va venir en fin de journée, vient en fin de soirée, où le corps du patient va être toute la journée à la maison. Il y a un laps de temps énorme. Et nous, si on avait la possibilité justement de faire ce certificat de décès, en quelques heures, le corps serait parti de la maison et traînerait pas. Moi, j'ai vu des corps, des fois, traîner jusqu'au lendemain matin, le temps qu'un médecin de SOS médecin passe constater le décès et faire un simple papier pour que les pompes funèbres, après, puissent emmener le corps.
C'est vrai que c'est un métier qu'on peut considérer en tout cas en tension et qui pourtant fait vraiment partie des métiers d'avenir.
Tout à fait.
Et tu parlais de ton rapport aux étudiants que tu peux recevoir de temps en temps. Comment tu sens la future génération ?
Alors la future génération, je la sens quand même motivée. Mais on constate également beaucoup d'abandon, d'arrêt de la profession dans l'année qui suit. Parce que je pense que c'est un métier où on a énormément de responsabilités, de plus en plus de responsabilités, sans que les choses suivent derrière, forcément, et que ça soit la reconnaissance ou même les salaires qui restent quand même assez bas malgré les compétences qu'on a, le savoir qu'on a. Parce que mine de rien, on parle d'un diagnostic médical, mais nous, je le vois en libéral, on a toutes les notions de diagnostic infirmier qui est primordial dans la profession. Je vois, nous, par exemple, en tant qu'infirmier libéral, depuis, je dirais, 2 ans, voire un peu plus, il y a ce qu'on appelle les bilans de soins infirmiers, où c'est nous, en lien avec la Sécurité sociale, sur le site Pro, qui réalisons le bilan de dépendance de la personne âgée, donc dans sa globalité, et qui permet d'évaluer le degré de dépendance de la personne.
Super. Juste avant de poursuivre, je vais vous proposer une petite pause musicale avec un morceau choisi spécialement par Pauline. On vous laisse découvrir.
Une flamme indestructible. Autour du monde, j'irai avec toi. Si tu veux derrière moi en Amazone, moi j'ai pas besoin de parler Davidson. Sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune. Viens, je t'emmène, viens, je t'emmène sur mon tricycle jaune. Quand la nuit tombe sur les autoroutes, que tous les gens sans poésie se marrent, de me voir pédaler comme un galérien sur mon tricycle jaune. Je pense aux gens dans le fond des métros qui s'enterrent dans leur propre tombe. Quand au-dessus des villes nous volons sur les ailes du tricycle jaune, sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune. Viens, je t'emmène, viens, je t'emmène. Sonnera la fin, que le trafic sera bloqué au péage. Il y en aura un que tu verras passer, ce sera le tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune, sur mon tricycle jaune. Viens, je t'emmène, viens, je t'emmène. Je t'emmène sur mon tricycle jaune.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie ? De retour dans notre émission avec Pauline qui est là aujourd'hui pour nous parler de son métier d'infirmière. Pour poursuivre, Pauline, j'aimerais bien que tu puisses nous emmener avec toi sur une journée type dans ton travail, dans ton aventure d'infirmière. À quoi ressemble une journée avec toi ou même une semaine avec toi ?
Alors, je vais vous décrire deux journées. Donc, tout d'abord, une journée en libéral. Donc, malheureusement, mais ça, on le sait, quand on choisit ce métier, on se lève tôt. Donc, je me lève environ à 5 heures. J'arrive sur ma tournée à peu près à 5h45 du matin. Voilà, donc j'ai une liste de patients que j'ai organisée la veille en fonction des horaires. Voilà, parce qu'il y a des horaires qu'on doit respecter. Par exemple, chez des diabétiques qui m'attendent pour manger le matin. Voilà, donc on organise également au niveau du secteur des endroits où les gens habitent. Donc moi, c'est très varié, hein. Je fais de tout, je passe d'une spécialité à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc je fais autant du diabète que du soin de personnes âgées, c'est-à-dire donner une petite douche, donner des médicaments, prendre une petite tension. Je fais également des pansements autant chroniques chez des patients diabétiques ou âgés, des pansements de suivi de chirurgie, parce que les gens, mine de rien, restent de moins en moins à l'hôpital. Donc c'est vrai qu'en libéral, on voit qu'on a de plus en plus de boulot. J'ai également des patients avec des pathologies psychiatriques chez qui je vais donner des médicaments, des bipolaires, des schizophrènes, des dépressifs, où il y a énormément de soins oraux, des soins d'écoute, de contact. Je vais surveiller des chimiothérapies, débrancher des chimiothérapies. C'est très, très varié et j'aime bien parce que à part les patients chroniques qu'on a un petit peu tous les jours. Moi, il y a des gens, ça fait plus de 10 ans que je vais chez eux tous les jours.
C'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être la partie officieuse du projet ou la partie plus informelle ou qui est vraiment le relationnel au quotidien avec ces gens-là, qui fait partie aussi de ton temps de travail.
Oui. Et puis, c'est quelque chose que j'adore. Il y a des personnes, ils m'ont connue toute jeune, pas mariée, sans enfant. Je les ai connues, moi, comme je leur dis, jeunes, à 80 ans. Ils en ont plus de 90 maintenant. Donc, c'est vrai que ça crée des liens quand même assez intenses. Et c'est le genre de patient que j'aime et que je recherchais dans mon métier, le suivi sur le long terme. Et on les accompagne en généralement, leur soit c'est jusqu'au bout à domicile avec une fin de vie à la maison. Donc c'est ce qu'on leur souhaite et ce qu'on essaye de faire au maximum avec un maintien à domicile. Ou alors malheureusement, il y en a quelques-uns qui finissent dans des institutions gériatriques. Voilà, donc c'est très varié.
Tu fais partie de la famille.
Oui. Et puis on passe d'un patient à l'autre. Donc voilà, comme je disais, caméléon, on s'adapte à un patient à l'autre, aux humeurs des uns et des autres. Je finis en général ma tournée vers 13h, 13h30. Et c'est fréquent aussi qu'on reparte le soir, refaire des soins. L'avantage, c'est qu'on peut concilier un peu les horaires avec notre vie de famille. Moi, ce que j'ai fait en étant maman, donc j'ai adapté mes horaires. Donc ça, c'est l'avantage. Et en hospitalier, c'est totalement différent. C'est un planning établi. Moi, j'ai fait beaucoup de 12 heures, donc lever tôt aussi. En général, le service, on prend la relève à 6h30. On finissait du coup vers 19h. On faisait souvent du RAB. Et pareil, c'est une journée, moi, dans les services où j'ai travaillé, services d'urgence, de pédiatrie, de chirurgie, c'est très, très intense. Moi, ce que j'aime, c'est un métier où on ne voit pas le temps passer, on ne s'ennuie jamais. Mais c'est très physique et ça demande beaucoup de temporisation, c'est-à-dire... Ça demande beaucoup de self-control. Ça nous ramène à beaucoup de choses. Ça nous confronte à beaucoup de choses aussi. Et il faut savoir, en rentrant à la maison, laisser couper le travail. Sinon, c'est pas tenable.
OK. Et justement, depuis le temps que tu exerces, tu nous parles de tous ces gens que tu as côtoyés. J'imagine que tu as dû vivre de nombreuses scènes mémorables. Mais est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous partager ?
Alors moi, j'ai 3 anecdotes, je vais faire courtes, qui m'ont particulièrement marquée, parce que ça fait déjà plus de 14 ans que je fais ce métier-là.
La première.
Alors, c'est un patient. Donc, je vais commencer par les moins fun, parce que c'est vrai que c'est un métier, mine de rien, on est confronté à la maladie et malheureusement à la mort fréquemment. Donc, j'étais jeune infirmière libérale. C'était un patient à l'époque qui avait pas une trentaine d'années, qui était un tout petit peu plus âgé que moi, qui vivait avec sa maman et sa sœur dans un appartement, et on le suivait pour une fin de vie. Il avait contracté un cancer du poumon en travaillant dans des usines marocaines de peinture, où je pense qu'il avait inhalé pendant des années des vapeurs toxiques. Et donc on savait qu'il était en fin de vie, on ne savait pas exactement combien de temps il restait. Et j'arrive un soir pendant ma tournée, et je le vois dans les bras de sa maman était en train de lui caresser le visage, etc. Et là, je me rends compte qu'il était mort, qu'il était décédé, et que j'allais devoir l'annoncer à sa maman, là, cet instant précis, qu'il tenait dans ses bras et qu'il câlinait. Et c'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'on n'est pas forcément formé à ça. Mmh. Les médecins le sont, nous pas forcément, parce qu'à l'hôpital, c'est quelque chose que le médecin voilà, fait. Mmh. Et je me rappelle, à ce moment-là, je me dis, là, dans 2 secondes, je vais lui annoncer... quelque chose qui va lui changer sa vie à tout jamais, même si elle est préparée. Je pense qu'une maman n'est jamais préparée à ça. Et je me rappellerai toute ma vie des cris qui ont résonné dans cet appartement. Et nous, bah, qui devons gérer et rester stoïques, et qui devons prendre le lead, parce que les gens comptent sur nous. Et ça, voilà, on doit faire remettre en place, ben, appeler les pompes funèbres, appeler un médecin, enfin tout ce dont je parlais dans la première partie. Le deuxième fait marquant, je me rappelle, j'étais à l'hôpital. Je prenais une garde dans un service de pédiatrie de nuit. Et à la relève, on me dit qu'il y a une petite fille, elle avait, je me rappelle, 12 ans, qui venait de se réveiller d'un coma. Donc elle venait d'arriver dans le service et elle venait de rencontrer l'équipe psychologique qui voulait lui annoncer qu'elle était la seule survivante de l'accident de voiture voilà, qu'il avait mise dans le coma. Et du coup, son papa, sa maman et son frère étaient décédés. Donc, qu'elle était la seule survivante et qu'elle était surtout tétraplégique. Et je me rappelle de cette nuit où j'ai beaucoup couvé cette petite fille qui ne faisait que pleurer, pleurer, pleurer. Et c'est très, très marquant aussi. Et l'anecdote un peu plus mignonnette, je dirais, j'ai travaillé dans un service d'EHPAD où, en poussant la porte d'un petit papy très, très, très discret, en discutant avec lui, en s'intéressant un peu à son intérieur, il s'avère que c'était un très grand résistant lyonnais qui a œuvré auprès de Jean Moulin, principalement à l'époque, et qui m'a raconté l'anecdote d'une magnifique histoire d'amour avec sa femme. Ils s'étaient rencontrés pendant la résistance, où c'était une jeune fille de 17 ans, ils avaient quand même un bon écart d'âge, où elle avait poussé la porte, une jeune bourgeoise de lyonnaise de l'époque, qui avait dit « Bonjour, je m'appelle Étiennette et je veux rentrer dans la résistance ». Et j'avais trouvé ça, il parlait de sa femme qui était décédée peu de temps, avec amour, c'était beau.
Bah oui, on se rend compte que c'est un vrai métier de rencontre, ah oui. Un métier de communication, un métier de relationnel. Oui. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la
c'est
beauté
beau.
De tes anecdotes.
Tout à fait.
Et c'est vrai que là, pour parler un peu plus dans le corps de votre métier, c'est vrai que dans chaque métier, on utilise du jargon professionnel, du vocabulaire, propre à notre profession. Est-ce que tu aurais justement un mot emblématique, quelque chose que vous utilisez quand vous êtes infirmier? Il y a un mot typique qui ressort fréquemment. T'en aurais rien à nous donner?
Je pense qu'il est utilisé certainement dans d'autres métiers, mais nous, on le voit souvent dans notre relève. Et on adore voir ça, c'est RAS. Rien à signaler. Ça veut dire que
c'est
tout va bien.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de problématique à gérer.
RAS. Parfait.
Voilà, tout le monde se porte bien.
C'est vrai que tu nous as parlé de ton envie d'être sage-femme initialement. Et c'est vrai que je voulais te demander si tu, dans ta prochaine vie, quel métier tu penses que tu aurais aimé faire? C'est sage-femme toujours ou...
Oui, je pense que c'est toujours sage-femme. Et j'aurais pu garder ce lien-là, mais je me dis que des fois, le destin a fait que je ne sois pas sage-femme. Je n'ai jamais eu mes tirages au sort et je voulais parler d'une petite anecdote où la dernière année où j'ai passé ce tirage au sort, je crois pour la 4e ou 5e fois, en discutant avec une nana de ma propos qui venait également, on avait fini notre cursus infirmier, on était dans la file d'attente pour attribuer des numéros. Et dans la file d'attente, j'ai, sans faire exprès, interchangé ma place avec cette fille qui a été tirée au sort. Alors que là, à la base, c'était censé être mon numéro. Donc je me suis dit, il y a trop de signes qui ont fait qu'il ne fallait pas que je fasse ce métier-là. Et peut-être que j'ai été destinée, vouée à être infirmière dans un métier dans lequel je m'épanouis vraiment. J'avais même hésité à rester plus longtemps en Belgique pour faire une spécialité d'infirmière pédiatrique qui correspond à puéricultrice en France, ou IBOD, pour pouvoir bosser dans des blocs de césarienne ou dans la maternité. Mais voilà, j'ai pris un chemin différent, des fois le destin.
C'est bien, il faut croire aux bonnes synchronicités de la vie. Et avant de nous quitter, Pauline, je voulais te proposer de faire une sorte de petit portrait chinois rapide de ton métier. C'est parti ?
C'est parti.
Alors, si une infirmière était une couleur ?
J'aurais envie de dire le blanc, mais c'est trop basique. Et je vais dire le vert, qui est ma couleur préférée, c'est la couleur de l'espoir.
Très bien. Et si une infirmière était un vêtement ?
Des baskets. Des très très bonnes baskets, parce qu'on a très mal aux jambes et très très mal aux pieds. On ne fait que courir toute la journée. Pour les gens hyperactifs, foncez, c'est un métier, ça va vous claquer.
Si une infirmière était une chanson ?
Résiste. Prouve que tu existes.
Une fleur ?
Alors, pour la blague, je voudrais dire des chrysanthèmes, mais non. Non, je vais dire la pivoine, parce que j'aime bien, c'est rond, c'est beau. Je ne sais pas, ça m'inspire.
Et pour terminer, si un ou une infirmière était une devise ?
L'espoir fait vivre.
Parfait, merci Pauline, c'était super.
Avec plaisir.
En tout cas, si vous cherchez à vous orienter ou à vous réorienter, vous l'aurez compris, on ne peut que vous encourager à rejoindre la belle équipe des soignants. N'hésitez pas surtout, et puis une douce pensée justement aux membres de ma famille qui font partie de cette famille-là. C'était Tu fais quoi dans la vie ? Et à très vite pour un prochain Focus Métier.
Merci, au revoir.
Au revoir Pauline. Calade. Et tu fais quoi dans la vie ?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.